of a dream.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Une Amérique qui est maintenant multiculturelle, multiforme.
One nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all.
Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous retrouver. Comme toutes les semaines dans l'Amérique et vous sur VO Afrique, nous émettons depuis Washington DC aux États-Unis au micro de présentation John Lyndon. Fred est à la mise en onde. Installez-vous confortablement et on se retrouve juste après. Vous êtes sur VO Afrique, vous écoutez l'Amérique et vous. Actualité oblige, nous avons dû changer le thème initial de cette émission. Recevez nos excuses pour cela. Ce vendredi, on reparle donc des fusillades, de morts et de bavures policières aux États-Unis. Hier soir, vers 21h, heure locale, les policiers ont été pris pour cible lors d'une manifestation au centre de Dallas. Des centaines de manifestants, comme dans d'autres villes américaines, protestaient pacifiquement contre la mort de deux Noirs tués par la police mardi et mercredi en Louisiane et dans le Minnesota. L'attaque de Dallas a fait 12 victimes, 5 policiers morts et 7 blessés. Quels commentaires vous inspirent ces événements? Nous vous donnons la parole dans l'Amérique et vous. Faites-nous part de vos réactions sur Facebook ou en direct au 001-202-619-3140. Et pour nous accompagner dans cette émission ce soir, nous avons Marc Elias, ancien chef de la police dans le nord de Miami, dans l'état de Floride, ici aux États-Unis. Monsieur Marc Elias, bonsoir.
Oui, bonsoir et je voulais bien vous saluer, vous féliciter pour le travail magnifique que vous êtes en train de faire et ainsi je voulais saluer tous les auditeurs.
Merci, vous gardez l'écoute, on va introduire nos autres invités. Johnny Tibbers, toi boy, bonsoir.
Bonsoir John Lyndon et bonsoir à tous vos auditeurs.
Alors vous vous êtes employé de la mairie de Dallas, est-ce que vous pouvez nous dire quel est le climat là-bas en ce moment?
Oui, John. Actuellement, à Dallas, la circulation a bien repris depuis les alentours de 9h-10h du matin. Il était prévu que la journée d'aujourd'hui devrait être tendue. Mais bon, depuis que l'assaillant, le sniper, a été tué, je crois que les choses sont redevenues normal, donc la circulation, la zone qui était interdite au public, la zone de restriction, ce qu'on peut appeler en d'autres termes le périmètre de sécurité a été levé. Donc la ville reprend son allure petit à petit.
Alors est-ce qu'on en sait un peu plus sur le sniper en lui-même?
Oui, le sniper, c'est un jeune homme de 25 ans, un noir américain qui était justement dans l'armée, c'est un réserviste. Il a été déployé en Afghanistan de décembre 2014 à juillet 2015. Et donc, depuis qu'il était rentré, il a été... pas démis de ses fonctions, mais sinon il a été déchargé de ses charges militaires et il est à la maison.
Voilà, merci Johnny, vous restez avec nous. Je vais introduire notre troisième invité, professeur Boubé Namaiwa, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Voilà, vous gardez l'écoute. Marc Elias, vous êtes un ancien chef de la police dans le nord de Miami, dans l'état de Floride, ici aux États-Unis. Quand une actualité comme celle que nous vivons en ce moment arrive, des policiers qui, dans un premier temps, tuent des Noirs et puis un Noir qui s'acharne, on va dire, sur les policiers, comment vous analysez cela?
Vraiment, c'est triste. Une chose pareille. Mais on ne doit pas regarder. La réalité est la réalité. Mais on doit voir que l'incident qui est arrivé, et on a des multitudes d'incidents qui arrivent où ce ne sont pas les blancs sur les noirs sur les blancs. Mais c'est comme hier soir quand je parlais avec mon fils, pour lui expliquer, il a quoi, 22 ans. Lorsqu'on voit un incident pareil, par exemple ce qui est arrivé à Dallas, pour moi, le type, le sniper, comme on dit, était un, pour moi, il est un... Comment pourrais-je dire ça? Quelqu'un qui a pris le moment pour faire une agitation. Pour moi, c'est un lâche. Pourquoi? Parce qu'on avait des gens qui étaient dehors, qui étaient en train de protester paisiblement. Et ils ont le droit de le faire parce qu'ils ont quoi? First Amendment right, Second Amendment right, qu'ils peuvent faire ça pour exprimer leur mécontente à propos de l'incident qui est arrivé. Mais pour prendre personne comme ça, pour avoir trouvé, pour tirer sur les polices, après avoir servi son pays pour tuer les policiers, pour moi, ça, c'est pas bien, parce qu'ils pouvaient bien même tuer les jeunes qui ont été là dans les fours. Mais, écoutez bien, ces policiers de Dallas, que j'ai beaucoup de respect pour eux, ont été là pour assurer que la protestation était faite bien paisiblement. Ce sont, et n'oublie pas, des pères et des mères de famille. Ce sont des hommes qui ont des mères et des pères également. Mais
voilà.
Pour tuer quelqu'un, et pour quelle raison encore? Ils n'ont rien fait de mal.
On va poursuivre, Marc Elias, cette discussion. Je vais prendre un auditeur au bout de la ligne. Youssouf Ouedraogo, bonsoir.
Oui, bonsoir, la Voix de l'Amérique. Content de vous retrouver. Bonne fête.
Alors, c'est pas trop la fête de ce côté avec toutes ces nouvelles. Votre réaction?
Alors, il faut dire que c'est avec tristesse que nous avons suivi ces événements à Dallas. Alors, ce sont des actes de violence très regrettables dans un pays où les républicains, malgré tout, restent sous aux critiques légitimes sur les lois américaines, sur le port d'armes et les bavures policières très insupportables. Alors, sauf que dans ce bas monde des préjugés, le constat est que les suspects ne représenteront pas de profil criminel au point de toucher la sensibilité des décideurs aussi longtemps qu'ils ne seront pas identifiés comme des musulmans. Mais dès lors que les suspects portent des noms musulmans ou sont de confession musulmane apparente ou de pratique, ils deviennent automatiquement des terroristes et la menace connaît une prise très sérieuse. Alors, nous demandons aux décideurs américains d'ouvrir les yeux et de s'affranchir afin de donner une réplique raisonnable à ces bavures policières à l'origine de ces carnages.
Ouais.
Parce que nous ne pouvons plus assister à ces scènes de violence en un point fini dans un grand pays comme l'Amérique qui est censé donner une bonne réputation au reste du monde et donner un bon exemple aux générations que nous essayons d'incarner aujourd'hui. C'est vraiment insupportable pour nous.
Voilà. Professeur Bobé Namaiwa, vous disiez au cours d'un échange qu'on a eu précédemment que le sniper de Dallas peut avoir exprimé une frustration.
Absolument, absolument. Excusez-moi. Moi, j'aime bien les Américains. Et je vous donne la preuve, c'est que je préfère vraiment aller aux États-Unis que d'aller en France. Je m'explique, hein. Ça c'est autre chose. Mais je vais vous dire une chose, la chose qui vient de se passer aux États-Unis, elle est beaucoup plus profonde que cela. J'ai parlé de frustration parce qu'il s'agit d'une question d'injustice. Injustice, autrement dit, les Noirs, on en a vu, on a tué combien de Noirs, on a massacré combien de Noirs, et chaque fois, dès que les policiers agissent sur des Noirs, on les libère. Je ne justifie pas, encore une fois, de plus ce qui se passe. J'essaie de comprendre la situation et de dire aux Américains, faites extrêmement attention, il faut que la justice sévisse. Il y a combien de Noirs aux États-Unis qui ont été tués, qui ont été martyrisés, et leurs bourreaux ont été immédiatement lâchés. Et je pense que ça, si les Américains ou l'Amérique ne tente pas de rendre justice véritablement aux Noirs. Ce n'est pas seulement une question de Noirs d'ailleurs, parce qu'on aura tendance à considérer que c'est parce que moi je suis Noir que je le dis. Je ne le dis pas, mais je parle objectivement. Tant que, par exemple, les États-Unis ne vont pas rendre justice, autrement dit, arrêter des policiers et d'une manière définitive, qui commettent des actes, parce qu'il faut aussi voir la chose de l'autre côté, ce sniper-là, il n'a fait que réagir. Ce n'est pas parce qu'un policier porte la tenue, je vais dire, de la police américaine, que quand il tue un Noir, il est absous de tout soupçon. Moi, je pense que sincèrement, il va falloir qu'on rende justice et ce n'est que l'expression d'une frustration parce que
alors,
le sniper, là, il est persuadé. Je ne sais pas. Excusez-moi.
Allez-y, professeur.
Je ne sais pas. Je ne sais franchement pas si ce sniper a agi autrement ou bien simplement par l'expression. Mais je pense beaucoup plus par l'expression d'une frustration parce qu'il sait que de toute façon, que les blancs qui ont tiré ou les policiers qui ont tiré sur ces femmes-là, ils seront libérés. Et finalement, j'ai entendu tout à l'heure.
D'accord. Excusez-moi, professeur. Excusez-moi, professeur. On a la chance d'avoir un ancien chef de la police, Marc Elias. Lorsqu'un policier tire, en fait, qu'est-ce qui se passe souvent dans la tête des policiers? Est-ce que le seul moyen, la seule solution, c'est de tirer à balles réelles? Est-ce qu'il n'y a pas un autre moyen qui permet tout au moins d'immobiliser celui qu'on veut, sur qui on veut tirer?
Ok, laisse-moi vous expliquer. Et je m'excuse que ça fait longtemps que j'ai fini avec ma classe de rhétorique de philo. Donc, si parfois le français, c'est un petit peu...
C'est pas bien grave.
Faute, je m'excuse.
Ouais.
Écoutez, je suis un instructeur de police. Oui, on a ce qu'on on appelle la continuité des forces. Notre présence est la première force, la façon qu'on parle avec quelqu'un. Si on doit donner à quelqu'un qui est dans une voiture, par exemple, il nous dit, bon, écoute, avant de vous donner ma licence et les papiers de la voiture, j'ai un permis d'arme à feu, j'ai une arme à feu dans la voiture. Il y a certaines choses à l'académie qu'on les apprend. Numéro un, dis-le de mettre les deux mains sur le volant. Numéro deux, appelez pour des autres polices pour venir vous assister. Si le type maintenant va faire un geste pour aller en arrière pour prendre son arme, donc à cette fois, donc il y a vraiment une tendance où l'action a été élevée pour faire une menace contre la police. Pour ce qui est arrivé, on n'est pas au courant de tout. Donc, je ne vais pas parler de ça. Lorsque le professeur, maintenant, il parle des Américains et des tout, je suis Américain. Donc, je dois me défendre à un point. Ce qui est arrivé hier soir, je suis totalement d'accord, ça ne devait pas être arrivé. Le type, maintenant, qui est militaire, on ne connaît pas le dossier médical. Est-ce qu'il était, comme on dit ça, PTSD? Parce que lorsqu'ils vont, par exemple, à la guerre, ils retournent, ils sont sur les médicaments. Ce n'est pas une excuse pour l'action qu'il a faite. Mais en même temps, tout, je vois que c'est un profiteur parce qu'on avait des civils, des jeunes qui étaient là. Les policiers étaient là juste pour que la paix se fasse.
Voilà.
Aux États-Unis, on a le droit de protester. Mais lorsque quelqu'un prend et profite de ça pour tirer un policier, là, ce n'est pas une question de noir.
Voilà.
C'est une question d'un profiteur.
Marc Elias, vous restez avec nous. On va prendre une petite pause. Et on se retrouve juste après.
L'Amérique et vous, en direct de Washington.
Vous écoutez l'Amérique et vous. Johnny Tibbers, vous êtes à Dallas. On parlait de l'interaction qu'il y a entre la mairie, par exemple, les communautés et même la police. Est-ce qu'au cours de ces échanges, vous évoquez souvent avec la police, par exemple, comment elle doit se comporter vis-à-vis des populations ou des communautés?
Écoute, John, je ne me souviens vraiment pas de beaucoup d'incidents entre la communauté noire de Dallas et la police de Dallas. Justement, je partage l'avis de Monsieur Elias par rapport au comportement du sniper, quand bien même il y a ces situations qui ont eu lieu dans la Louisiane et dans le Minnesota. Mais pour revenir à votre question, il y a une bonne entente, une bonne harmonie entre la police de Dallas et la population noire de Dallas. Et pour exemple, je vous dis que le quartier général, justement, de la police de Dallas est dans le sud, c'est-à-dire dans la périphérie, dans la communauté noire. Alors, s'il y avait justement... si la colère, justement, du sniper était justifiée, ben, on devrait voir les Noirs attaquer, par exemple, le quartier noir, le quartier général de la police. Mais disons que l'entente, il y a une très bonne entente entre la police de Dallas et la communauté noire de Dallas. Et laissez-moi vous dire que la police de Dallas est l'une des polices aux États-Unis qui regroupe presque toutes les couches sociales, disons, du monde. Vous trouverez des Vietnamiens, des Chinois, des Japonais, des Africains, des Mexicains, disons, des Hispaniques, et des Blancs et voilà. Des Noirs. Donc, c'est une police vraiment structurée.
On vous a compris.
Laissez-moi vous dire aussi que le chef de la police est Dallas, c'est un Noir.
Voilà, on vous a compris. On va prendre un auditeur au bout de la ligne, Loumane Cédric. Bonsoir.
Bonsoir, messieurs les journalistes.
Alors, vous vous disiez que si le sniper a agi de la sorte, c'est parce que le gouvernement ne fait rien. Expliquez.
Oui, en fait, moi, je pense que l'acte qu'a posé les snipers, bien que ce soit illégal ou punissable par la loi, je pense que, vu les nombres de tueries qu'il y a eu aux États-Unis, parce que moi, je suis en RDC, précisément à Lubumbashi, vu le nombre de meurtres qu'il y a eu par ici des violences policières, peut-être que la communauté noire des États-Unis, ou précisément des Dallas ou du Minnesota, ils se sont peut-être dit que parce que les gouvernements de Washington n'arrivent pas à résoudre ces problèmes, ils s'étaient dit que c'était peut-être mieux qu'il agisse de la sorte pour que le gouvernement prenne cette affaire-là au sérieux. Je pense que c'est peut-être qui a pu motiver les snipers, on ne sait pas.
Voilà, on ne sait pas.
Il y a beaucoup de raisons pourquoi est-ce que les snipers peuvent intervenir seulement à ces moments-là.
Voilà, et l'enquête...
contestée dans les rues et...
Oui. Merci Loumane Cédric. Merci Cédric. On va revenir à nos invités. Je vais poser une petite question à Marc Elias. Lorsqu'il y a toujours ces bavures policières, il y a des vidéos. Et très souvent, le discours qui se dégage après est, dans la plupart du temps, différent de ce qu'on voit dans les vidéos. Comment vous expliquez ça? Marc n'est pas avec nous. Professeur Boubé, Marc est là?
Oui, je suis là.
Voilà, je demandais, lorsqu'on regarde des vidéos, le discours qu'on entend souvent des officiels est différent de ce qu'on voit dans une vidéo. Très souvent, les policiers disent qu'ils se sentaient menacés, qu'ils craignaient pour leur mort. Les deux cas non, de mais, cette semaine...
Non, mais écoute bien. Le vidéo se fait... Par exemple, lorsqu'on a eu hier soir ce qui était passé, il y a des vidéos à partir de quoi, la troisième ou la quatrième balle, mais on ne sait pas ce qui se passe avant. Donc, on doit voir la totalité de tout l'incident. Je suis parfaitement d'accord. Par exemple, ce qui est arrivé avec le jeune qui était dans la voiture lorsque l'officier a tiré, lui a donné plusieurs balles, mais on ne sait pas ce qui est arrivé avant. Étant chef de la police et à propos de Dallas, écoutez bien, le chef de la police de Dallas, j'ai beaucoup de respect pour lui. Parce que, étant que chef de police, il a des conseillers techniques. Quand je dis des conseillers techniques, par exemple, moi, quand j'étais à North Miami, j'ai eu plusieurs pasteurs qui sont dans la communauté, qui étaient mes conseillers techniques. J'avais des gens qui habitaient là depuis 30-40 ans, qui étaient mes conseillers techniques. J'ai fait une partie des jeunes, étaient des conseillers techniques. Un chef de la police doit savoir tout ce qui passe dans sa communauté. Mais, soyons réels, on a encore une fois des profiteurs. Les gens, si c'était mon fils qui était sorti pour aller faire une démonstration, je lui ai dit, écoute, tu as le droit de faire ça, mais pas pensant que... on aura un sniper qui allait tirer sur les policiers. Mais pour quelle raison? Lorsqu'il a fait ça, pour moi, il a créé plus de quoi tension maintenant entre la police et puis avec les protestateurs. Parce que les protestateurs voulaient tout simplement faire entendre leur voix. Mais on ne le fait pas pour la violence.
Merci Marc. Professeur Boubé Namaïwa, à votre avis, vu de là où vous êtes, comment on peut résoudre les violences policières entre les communautés ici aux États-Unis et la police?
Vous avez bien fait de me poser la question de savoir de là où je suis. elle est importante. À mon avis, il va falloir que les Américains fassent leur propre examen de conscience pour se dire simplement qu'il faudrait nécessairement, avant d'avoir un agent de la police américaine, FBI ou tout ce que vous voulez, il faut nécessairement qu'il y ait des enquêtes assez sérieuses pour dénicher des gens qui sont des racistes ou qui ne le sont pas. Il fallait mettre, parce qu'on sait, l'homme est l'homme. Il a la double l'ambivalence, c'est-à-dire il est aussi un ange. Il faudrait que les Américains commencent à chercher des anges, ceux qui savent véritablement respecter la vie humaine. Parce qu'encore une fois de plus, s'il n'y a pas de justice, les gens auront tendance à se faire justice eux-mêmes. Et
alors,
c'est cela. Il faudrait qu'ils fassent vraiment une espèce d'enquête de moralité avant de pouvoir recruter des policiers. Sinon, ça ne finira jamais.
Voilà.
Et les gens auront toujours tendance à vouloir se faire justice eux-mêmes.
D'accord. Votre réaction, vous parlez du respect de la vie humaine. Joe Moussoka est au téléphone. Il est parti. Alors, Joe Moussoko nous avait écrit et il disait que les Noirs aussi sont des humains, comme tout autre humain, mais on dirait que la race occidentale ne veut pas l'admettre. Marc Elias, est-ce qu'il y a un début de solution qu'on peut trouver? Vous, ancien chef de la police, quel conseil pourriez-vous donner à toute personne qui se trouverait en face d'un policier, quelles que soient les circonstances? Voilà, on va lire quelques réactions. Je crois que Marc, on l'a perdu. Cette réaction de Béchir Chidi, qui dit « On ne peut pas répondre au mal par le mal, mais quand même, les Afro-Américains ont subi tant de choses. Le gouvernement ne fait que prendre des mesures, mais l'application est tout autre. Pour moi, les Afros sont abandonnés entre les mains des bourreaux. Ils doivent s'auto-défendre, sinon il n'y aura pas de solution. » Effectivement, On va accueillir sur ce plateau Idriss Fall. Idriss, vous suivez de près cette actualité, non seulement en tant que journaliste, mais parce que vous vivez ici aux États-Unis. Votre réaction sur le déroulement de tous ces événements depuis mardi?
Je pense que c'est tragique. C'est seulement tragique lorsqu'on tue des agents de la sécurité qui sont chargés de protéger la population. C'est tout aussi tragique les successions de bavures policières et surtout lorsque ces bavures, pour l'essentiel, ont visé des populations noires. Mais il ne faut pas oublier aussi qu'aux États-Unis, ici avec le First Amendment, le port des armes est légal. C'est-à-dire que n'importe quel Américain peut aller s'acheter son arme. Et la police, ce qu'on ne dit pas, et que Marc Elias aurait pu quand même le souligner, c'est que les policiers aussi, très souvent dans l'exercice de leur métier, ils sont tués par des gens malveillants. Et ce qui fait que quand on arrête quelqu'un ici, ils sont très, très souvent sur la défensive. Ce sont les policiers qui alertent les malfaiteurs, ce sont les policiers qui vont aller pour chasser les gangs, ce sont les policiers qui vont dans les quartiers dangereux, et ce qui fait que très, très souvent, ils sont sur la défensive. Et que je pense que ça amène parfois, en fait, des situations assez malheureuses. Comme disait Marc Elias, à Bâton Rouge, bon, un vendeur ambulant est... Ceux qui ont appelé les policiers ont dit que ce monsieur était armé. Dans le Minnesota, c'est un simple contrôle de routier. Je pense que la voiture avait une seule lumière. Et que qu'est-ce qu'un contrôle routier? Le chauffeur en arrive à dire que j'ai une arme et j'ai un permis d'arme à feu. C'est-à-dire que c'est des situations où ça crée souvent des malentendus, mais quand même, dans l'écrasante majorité des États-Unis, quand même, les gens, ils vivent dans la sécurité. C'est pas...
Voilà.
On ne vit pas dans l'insécurité totale aux États-Unis.
Alors, Johnny, est-ce que à votre avis, si on vous demandait un début de solution pour qu'on n'assiste pas à ce genre d'événement, ce serait quoi pour vous?
Ben, permettez d'abord que je rejoins, je partage l'avis de M. Fall. Ce qu'il venait de dire est très important. On accuse justement toutefois la police américaine de meurtre, d'exagération, de bavure. Oui, on n'en disconvient pas, il y a toujours des bavures. Mais reconnaissons, je vous donne des statistiques un peu factuelles. Depuis janvier 2016 jusqu'à aujourd'hui, 26 policiers
noirs et blancs, tous confondus, ont été tués pendant l'exercice de leur fonction. Alors, je lisais un journal français ce matin qui me parlait, qui disait justement que 600 noirs ont été assassinés depuis le début de l'année. Mais 600, c'est un nombre vraiment exagéré. Je vous apprends que ça, les 600 personnes, disons 580 personnes qui ont été tuées par la police ne sont justement pas...
Johnny, désolé Johnny, on va faire un dernier tour vraiment de table. Professeur Boubé, un mot de la fin?
Oui, je voudrais simplement considérer un peu les choses entre ce que les gens font régulièrement et maintenant ce que le sniper a fait. Le sniper, encore une fois de plus, c'était une réaction de dépit face à tout ce qui se passe de l'autre côté. Maintenant qu'il y ait des heurts entre les policiers de temps à autre, ça c'est tout à fait normal. Ça, même dans nos pays, on a toujours ce genre de choses-là.
Voilà.
Mais maintenant, il faudrait voir aussi que ce sniper là, c'est qu'il a fait. Moi, je pense que c'est une réaction
Merci.
De dépit face à la justice
américaine. Merci, professeur Idriss. En un mot, le mot de la fin.
Je remercie les auditeurs de La Voix de l'Amérique et quand même tous tes invités.
Merci, c'est la fin de cette émission. Fred était à la production. John Lyndon était à la présentation. Merci aux éditeurs. Restez fidèles au programme de VO Afrique et sur voafrique.com. Bonsoir.